Le dévoilement de Dieu numéro 185. Votre foyer et la maison de Dieu deuxième partie. 6 décembre 2020 matin. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude de la prédication de William Branham, le dévoilement de Dieu, et avancer avec notre mini-série, qui se trouve dans de cette étude, sur l'atmosphère dans nos foyers, comme Esther dans la maison de Dieu. Étant donné que nous nous approchons du temps de la résurrection pour commencer, et voyant combien Esther nécessaire d'avoir la pensée correcte afin de recevoir la résurrection, raison pour laquelle nous étudions ce sujet sur notre foyer et la maison de Dieu, parce que nous aurons besoin d'être dans un meilleur état d'esprit et atmosphère pour recevoir la résurrection quand elle commence. Il nous est dit dans 2 Pierre 1, 2, que la grâce et la paix vous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cela veut dire que la grâce que nous sommes capables de recevoir et la paix dans laquelle nous sommes en mesure d'y accéder dépendent toutes de notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup n'ont pas de fondement dans la parole et ainsi, ils sont secoués chaque fois que les médias sont utilisés par les grands gouvernements et de grandes affaires pour effrayer quant au fait de faire ou de ne pas faire certaines choses. Ils contrôlent la pensée des gens à travers la peur qu'ils ont faussement placée en eux. Soit nous avons le Saint-Esprit, soit nous ne l'avons pas. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour ôter la peur. L'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Timothée 1, 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, cela sonne comme si Paul dit que si vous avez une pensée saine, vous ne pourriez pas être effrayé. Et le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions connaître les choses de Dieu, et ainsi, si nous connaissons les choses de Dieu, nous n'aurons aucune peur au sujet de quoi que ce soit. Mais ce qui produit la peur, c'est un manque de connaissance. Si vous savez que Dieu vous a prédestiné à la gloire, alors vous chercherez à ce que la gloire apparaisse dans votre vie. Et il est certain que cette gloire soit la doxa de Dieu, ses opinions, ses valeurs, ainsi que ses jugements. L'apôtre Paul dit aussi dans Romains 8, 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Il dit aussi dans 1 Corinthiens 2, 12 « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et il est certain qu'en connaissant les choses que Dieu a données gratuitement, cela nous autorise d'entrer dans une atmosphère de grâce et de paix, comme Pierre l'a déclaré dans notre écriture d'ouverture. Ainsi, vous voyez, tout s'emboîte. Et nous sommes placés en position par le cri, afin que nous soyons prêts aujourd'hui, pour la voie de la résurrection. Ainsi, nous voyons que Dieu nous a donné son esprit, afin que nous puissions connaître sa grâce, ce qui crée une atmosphère de paix. Ensuite, Pierre dit au verset 3 comme sa divine puissance, et nous savons que la puissance de Dieu, c'est sa parole. Selon Romains 1, 18. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu nous est donnée tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, doxa, et par sa vertu, virilité, qui atteint la pleine maturité. Ainsi, comme Pierre a dit, la parole de Dieu, non seulement qu'il nous donne la grâce et la paix, mais cela nous multiplie la grâce et la paix, et non seulement cela, mais il dit que cela nous donne un certain nombre des choses dont nous aurons besoin, qui se rapportent à la vie et à l'image de Dieu. Maintenant, c'est cette ressemblance de Dieu qui nous conduit à l'image de Dieu. Et comme Jésus-Christ, le Fils premier-né, était à l'image de Dieu, alors cette ressemblance à Dieu, c'est cela l'image de Dieu, dans laquelle il était né. Ainsi, nous voyons comment nous sommes appelés à être conformes à son image. Ensuite, Pierre dit, dans 2 Pierre 1, 4 lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, une promesse est une parole donnée. Si je vous donne ma parole, cela signifie que je vous promets que je ferai ce pourquoi je vous ai donné ma parole, que je ferai. Ainsi, vous Néhémie pouvez pas séparer la parole de la promesse de la parole. Et il dit que c'est à travers les promesses ou la parole que cette nature de Dieu nous est transmise. Maintenant, nous savons que le mot divin se rapporte à Dieu. Par conséquent, si nous devons être participants de la nature divine, alors, nous devons être participants de la nature de Dieu. Et il nous dit que cela provient de sa parole, sa promesse, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, ce mot nature, est un mot qui parle des dispositions fondamentales, des caractéristiques et des attributs, qui incluent les manières de penser, les sentiments, le parler et les actions. Ainsi, si nous devons recevoir la nature divine de Dieu, ou la nature de Dieu à travers la parole de Dieu, qu'il qualifie des précieuses promesses, alors cela signifie que vous recevrez la vie de Dieu et la doxa de Dieu, qui est la pensée. Et souvenez-vous, que la Bible enseigne, tel un homme pense, tel il est dans son cœur, ainsi vous êtes la résultante de toutes vos pensées et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, en recevant la nature divine, nous recevons la vie divine et tous les attributs et caractéristiques de cette vie divine. Et c'est ce que Dieu nous a promis dans Genèse 1, 11. Que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou nature. Ainsi, vous pouvez voir l'origine de la nature, c'est la parole de la promesse. Raison pour laquelle, c'est la parole de vie, parce que la parole est une semence que le semeur est parti, semé. Étant une semence, alors, c'est un porteur de la vie. La vie Dieu. Ainsi, si notre transformation provient de la parole qui demeure en nous, alors, la vie qui se trouve dans cette parole, c'est elle qui produit la nature divine en vous. Maintenant, comme nous le disons la semaine passée, nous sommes de petits messiers, et nous sommes de petits créateurs. Et que créons, nous, une atmosphère dans laquelle nous vivons. Comme nous l'avons lu la semaine passée, dans la prédication de frère Branham, votre vie est le digne de l'évangile 151? Il dit, et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie? Vous n'y savez pas pourquoi? C'est juste le genre des personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils qu'ils vous aimez être en leur compagnie. C'est il crée cette atmosphère par la vie qu'il mène, par la façon dont il parle, par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d'autres que vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal acquis. Parler de quelqu'un. Vous dites, oh là là, le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Il est Esther. Le voilà donc. Il va parler de tel homme. Il n'y fera que raconter des plaisanteries grossières. Quelque chose au sujet de femmes ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez. Il crée. Allez voir. Ce sont de très braves gens. Mais ils créent cette atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez. Les choses que vous faites. Vos actions. Les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Maintenant, laissez-moi le répéter car c'est Esther-là que nous allons fixer notre attention. Ce matin, il a dit, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère, et si nous devons recevoir le ministère de la résurrection, et tout ce qui va avec, alors, nous devons créer une atmosphère qui souhaite la bienvenue à ce ministère pour nous. Nous devons créer cette atmosphère dans le but d'être en plein dedans. Une fois de plus, il a dit, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère, parce qu'encore, tel un homme pense, tel il y a Esther dans son cœur, et que c'est Esther de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Maintenant, souvenez-vous qu'il nous est Esther dit par l'apôtre Paul que le Seigneur lui-même fera trois choses, pendant qu'il descend, et il a dit ce que c'était, le cri, la voix et la trompette. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15-18, nous lisons, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous n'y devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, et souvenez-vous il n'y a qu'un seul Seigneur et une seule foi et Esther seul Seigneur, a un cri de commandement et frère Branham dit que ce cri est Esther le message, et celui-là même qui descend avec le cri, descend aussi donné, à la voix d'un archange. Et il a dit que c'est Esther la voix de la résurrection et il descend aussi au son de la trompette de Dieu. Et il a dit que la trompette de Dieu, c'est Esther le rassemblement et l'enlèvement. Parce qu'une trompette dans la Bible Esther toujours utilisée pour rassembler les gens descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, comment les gens peuvent-ils se consoler les uns, les autres, s'ils n'ont pas la signification de ces mots? Et je suis désolé de dire que la plupart des gens, Néhémie comprennent pas que le cri, c'est Esther un message. Le mot grec, Esther kalusma, qui signifie un commandement militaire, en d'autres termes, comme dans la vision, où il criait, restez sur la ligne. C'est Esther ce que criait le prophète, lors du défilé de l'épouse, alors qu'elle marchait sur le pas de en avant seul des chrétiens, alors qu'elle parada au-devant de lui et de l'ange du Seigneur, qui est Esther le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ce sont tous des termes militaires, de toutes les façons. Maintenant, certains croient une fausse doctrine selon laquelle la plénitude de la divinité serait dans l'épouse. C'est Esther une fausse doctrine. Nous avons une mesure, et seule, une personne dans l'Écriture avait la plénitude en lui, et c'était le Fils premier-né de Dieu. Mais certains enseignent que l'épouse sera la voie qui ressuscite les morts et c'est Esther encore une fausse doctrine. Mais vous voyez, comment le seul faux enseignement en a produit un autre, au point que leurs pensées sont désorientées de l'auteur et du consommateur de notre foi. Qui est-ce Dieu ? Lui-même. Ainsi, ils ont placé leur foi dans un vase, et non pas dans le Dieu qui utilise les vases. Frère Branham dit dans la prédication sur l'enlèvement 4 décembre 1965 p. 88. Un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une trompette. Un cri de commandement. C'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose. C'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Saint Jean 11, 38 et 44, rappela Lazare de la tombe. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts. Pour être enlevé. Maintenant observez comment les trois choses arrivent. Maintenant, rappelez-vous, quand Jésus disait que Lazare était mort, il pleura. C'était le Fils de Dieu, l'homme Jésus, il pleura. Mais quand il redressa ses épaules et dit à Lazare, sors, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu, qui habitait dans l'homme Jésus. Dans sa prédication, montre-nous le Père 21 mai 1961 p. 74. Frère Branham dit, j'ai dit, très bien. Examinons la question. J'accepterai qu'il était un homme. Mais il était homme Dieu. J'ai dit, il est allé à la tombe de Lazare. Il a pleuré comme un homme. Mais quand il s'est tenu là, qu'il a redressé ses petites épaules, et qu'il a dit, Lazare, sors. Un homme mort depuis 4 jours, dont le nez s'était déjà affaissé et le corps rongé par les vers du corps, son âme avait effectué un voyage de 4 jours quelque part. Je n'ai mis ses pas. Je n'ai mis pense pas que vous le sachiez. Mais son âme l'avait quitté depuis 4 jours. Son corps, la corruption s'y était installée. Et il a dit, Lazare, sors. Et un homme mort depuis 4 jours s'est relevé et a vécu de nouveau. Frère, il fallait plus qu'un homme pour faire cela. C'était Dieu dans un homme. Assurément, il était un homme quand il descendait de la montagne ce jour-là, affamé, cherchant du regard dans les arbres pour trouver des figues à manger. Il avait faim. Il était affamé comme un homme. Mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons et qu'il a nourri 5 000 personnes, ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme, qui pouvait rompre ce pain et multiplier ces morceaux de pain et du poisson cuit, produire cela. C'est vrai. Il était plus qu'un homme. Ok. Cela devait répondre à la question, selon laquelle qui apportera la voix. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur, lui-même, accomplit tous les trois lors de la présence de sa parousie. Maintenant, il y a aussi d'autres endroits où frère Branham le dit aussi. En fait, dans sa prédication, la Révélation chapitre 4 première partie 31 décembre 1960 p. 76. Il dit, la même voix qui appela Jean, disant, monte ici, la même voix qui dit à Jean, monte ici, c'est la même voix qui appellera l'Église un jour, Amen. Qui appellera l'Église. 152 de plus, la même voix qui a appelé Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort, c'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Voyez-vous? Oh! Ce son de la trompette de Christ qui appela Jean à monter est la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte? Il n'a pas juste dit, Lazare, sors. Frère Branham mime un état de faiblesse. NDE, Lazare, sors. Cela l'appela d'entre les morts. 153 et il répondit, me voici. Et il ressuscita d'entre les morts. après qu'il fut mort et que son corps eut pourri. Un absolu 27 janvier 1963 p. 86. Qu'était-ce? Cette même lumière? Cette même voix à parler? Disant, Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour moi, c'était la même voix. C'était la même colonne de feu qui était là-bas autrefois, car elle fait les mêmes œuvres. Jésus a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il est revenu. Il a dit quand il était ici sur terre, à la fête, il a dit, je suis le je suis. Vous dites, eh bien, tu n'as pas plus de 50 ans, mais tu dis, et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était là. Qu'était-ce? Cette lumière, ce feu, ce Dieu, cet esprit Esther. Dieu Esther un feu ardent. Il Esther une lumière. Et elle était manifestée là en Jésus-Christ. Elle Esther retournée quand Jésus Esther sortit de la tombe. Mais le jour où elle a rencontré Paul, qui était en route pour Damas, elle était retournée de nouveau à Dieu, car elle a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Frère, Néhémie dormez pas. Néhémie voyez-vous pas que ce même Dieu est maintenant même au milieu de nous, confirmant lui-même que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Voilà mon absolu. » La vision de Patmos 4 décembre 1960 p. 78. Très bien. La première de toutes les révélations, c'est Esther la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qu'il est Esther quand vous entendez cette voix, très bien. La même voix qui a retenti au mont Sinaï. La même voix qui a retenti à la montagne de transfiguration. La même personne. Quelqu'un qui ressembla à un fils de l'homme. Maintenant, considérez le verset suivant. Très bien. Et je me retournai. Le chapitre 12. Maintenant, 149, nous allons laisser ces églises juste une minute, car toute la semaine prochaine sera consacrée à ces églises. Vous voyez? Nous allons donc sauter cela. 150 et il dit, c'est. Je vais lui ordonner d'envoyer ce message que je te montre. Qui est-ce? Je suis le premier et le dernier. Je suis le suprême. Je suis le tout-puissant. Et je suis venu te dire que je te donne un message pour les sept églises. Je veux que tu l'écrives, que tu le prépares. Vous voyez? Et c'est sept églises qui sont en Asie. Or, c'était des églises situées là-bas et qui avaient alors un caractère qui représentait ces âges de l'église à venir. Et si leur nature représentait les sept âges de l'église, alors quelle sera la nature de l'épouse au moment de la résurrection? Maintenant, pensez-y. Si l'esprit d'Élie, c'est Esther pour ramener les cœurs ou la compréhension au Père, alors, il faudra le même esprit, et la même nature dans l'épouse de cet âge, comme c'était dans les pères, pour revenir à la même résurrection. Ce Néhémie sera pas deux différentes natures là. Ce sera une seule, unifiée par le Saint-Esprit. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Ils doivent recevoir le même esprit et ainsi la même nature, que nous devrons recevoir, si nous devons être enlevés ensemble. Ainsi, il y aura une certaine nature dans laquelle nous devons entrer, sinon nous n'aurons pas la nature de la résurrection. Maintenant, une autre chose, rentrons en arrière pour voir ce qui s'était passé lors de la première résurrection, parce que nous devons le savoir afin de connaître et de comprendre ce qui arrivera au temps de cette résurrection suivante, qui va arriver. Maintenant, nous avons assez, dans Matthieu 27, 50-53, pour être capable de connaître ce à quoi Nous devons nous attendre quand la résurrection commencera. 50-53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Ainsi, quelle est la première chose qui arriva au moment où il poussa un grand cri? Les rochers se fendirent et il y eut un tremblement de terre. Ainsi, les rochers se fendirent et il y eut un grand tremblement de terre. Par conséquent, si l'alpha doit se répéter dans l'oméga, alors ceci devra arriver quand nous allons passer du cri à la voix. C'est la première chose à laquelle je voudrais attirer votre attention. Observez ce grand tremblement de terre et soyez prêts pour la résurrection. N'importe quand cela pourra arriver. Néhémie, soyez pas distrait. Pensez que la résurrection est maintenant proche. Gardez votre pensée sur lui qui est la résurrection. Maintenant, rappelez-vous que celui-là qui nous a donné le cri est le même qui poussa un grand cri et ressuscita les morts. Mais avant que les morts Néhémie puissent ressusciter, il y aura un grand tremblement de terre. Sinon, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, écoutez, là où frère Branham place le tremblement de terre de la Californie. Dans sa prédication, qui dites-vous que c'est 27 décembre 1964 p. 22. Il dit, nous nous retrouvons malgré tout dans la même condition que les autres, lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer, comme je l'ai prêché une fois quelque part, pour un message de Noël sur la dislocation du monde. Le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Regardez les tremblements de terre là en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. Et c'est un endroit plein de péchés. Vous voyez, c'est la limite. 48 La civilisation a voyagé avec le soleil, depuis. Et elle a commencé à l'est se dirigeant vers l'ouest. Et maintenant, elle est sur la côte ouest. Si elle va plus loin, elle sera de nouveau à l'est. Ainsi, c'est là la limite. Or, le péché a voyagé avec la civilisation et c'est devenu le cloaque de tous les âges. Ils font des choses auxquelles les êtres humains d'aucun autre âge n'auraient pu penser. Les femmes se sont jetées dans des souillures telles qu'aucune femme, en aucun âge, Néhémie se serait jamais imaginé, des choses que nous faisons aujourd'hui. Et puis nous prétendons toujours être des chrétiens. Quelle disgrâce! Le choix d'une épouse 29 avril 1965 p. 85. C'est un avertissement solennel. Nous, Néhémie, savons pas quelle heure il est. Et vous, Néhémie, savez pas non plus à quel moment cette ville se retrouvera un jour ici, au fond de cet océan. 183 O. Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et à Gomorre, elles auraient subsisté jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorre reposent au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer. 184 Toi, ville qui prétend être la cité des anges, qui t'es élevé jusqu'au ciel et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, des modes à tout le reste, Au point que même les pays étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs. Avec tes belles églises et tes beaux clochers et ainsi de suite. La manière dont tu agis. Rappelle-toi. Un jour tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même, là en dessous de toi, il y a de grandes fissures. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps encore soutiendra-t-il ce banc de sable qui surplombe cela? Quand cet océan là-bas profond de 1609 mètres -NDT s'élancera d'aplomb jusqu'à la mer Salton. Ça sera pire que le dernier jour de Pompéi. Repens-toi. Los Angeles. Repentez-vous. Vous autres. Et tournez-vous vers Dieu. Lors de sa colère estère sur la terre. Fuyez alors qu'il estère encore temps. Et entrez en Christ. Prions. Le filtre d'un homme qui réfléchit 22 août 1965 p. 65. La Odyssée aveugle. Combien de fois Dieu a désiré vous donner un réveil. Mais, maintenant, votre temps est passé. C'est trop tard maintenant. Combien vous avez ri et vous vous êtes moqué des gens que Dieu vous a envoyés. Mais, maintenant, votre heure est arrivée. Oh, États-Unis, États-Unis, combien de fois Dieu a voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Maintenant, cette voie va d'une côte à l'autre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Combien de fois Dieu a voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre heure est arrivée. 145 les nations se disloquent. Le monde s'effrite. Un immense bloc long de 2400 km et large de 480 à 640 km sombrera un de ces jours là-bas à 100. Ou peut-être 64 km. En bas de cette grande faille. Et les vagues s'élanceront jusqu'à l'état de Kentucky. Et quand cela arrivera, cela secouera le monde si fortement que tout ce qui se trouve à sa surface sera ébranlé. La foi qui a été délivrée une fois pour les saints 29 novembre 1953. Amis chrétiens, je sais que la Floride est un endroit difficile à gagner. Je leur parlais là-bas. En fait, pourtant un de ces jours il n'y aura plus de Floride. Elle va sombrer. Et les choses que vous adorez tant maintenant périront. Il n'y a que le Dieu éternel qui peut vous sauver. Ainsi si vous n'êtes pas là où vous pensez que vous devriez être, ou là où Dieu dit que vous devriez être, c'est là le problème. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Maintenant, rappelez-vous que quand Jésus était ici dans l'Alpha, il leur a averti, de Néhémie pas être dans la cité, quand les légions romaines allaient venir. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, si vous êtes dans la cité, fuyez dans les montagnes. Matthieu 24, 15 Esther pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Vous savez, et je me demande, combien des gens qui ont entendu les prophéties de William Branham au sujet de ce qui va arriver en Californie et en Floride, et en Caroline, combien d'entre eux comprennent que cela va s'accomplir avant la venue du Seigneur? Les gens sont-ils fous de penser que cela n'est va pas s'accomplir? Aussi longtemps qu'ils vivent à ces endroits-là, il a dit, avant la venue du Seigneur, et les gens se rendent à ces endroits, à cause de la chaude température, contrairement au nord. Mais la crise interviendra avant la venue du Seigneur et il vous en a déjà donné l'avertissement. Et Jésus leur a averti dans l'Alpha, 16:20, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit Néhémie descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs n'y retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pourquoi pas le sabbat? Parce que les portes de la cité étaient fermées le sabbat et ils seraient enfermés dans la cité quand ils ont été assiégés. Mais les chrétiens avaient été attentifs aux avertissements et aucun d'entre eux n'a été trouvé dans la cité quand Rome l'assiégea. Je dis si vous vivez sur la côte, n'importe où, vous devez vous déplacer pour aller à un endroit beaucoup plus solide, parce qu'il a dit la Californie sombrera avant la venue du Seigneur. Josephus a dit qu'il n'y avait aucun chrétien dans la ville de Jérusalem quand ils l'ont assiégé, mais 1 million des Juifs moururent là, beaucoup ont mangé leurs propres enfants pour rester en vie. Ainsi, où partirent les chrétiens? Dans les montagnes en dehors de la ville. Ok. Ainsi, il parle de Dieu, le même dans l'alpha et dans l'oméga, et sa lumière s'est répandue de l'Esther et Esther arrivée à l'ouest. Il était l'alpha et l'Esther l'oméga et il n'y change pas. Et ce qu'il a fait dans l'alpha, il doit le répéter dans l'oméga, sinon, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Livre des âges de l'Église chapitre 2, la vision de Patmos P, 23. Apocalypse 1, 11. Qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le à cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Voilà, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire à dire tout. Le seul vrai Dieu. La voix et la parole de Dieu. Cette réalité, cette vérité est-à-dire toute proche. Comme c'est-à-dire grandiose d'être dans l'esprit. Oh là là, d'être dans la présence de Dieu, et de l'entendre parler. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le à cette église. La voix qui a fait retentir ses paroles dans le jardin d'Éden et sur le mont Sinaï. Voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de la transfiguration. Se faisait entendre de nouveau, cette fois-ci aux sept églises avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ. Remarquez que c'est-à-dire la même voix, tout le long, la voix de Dieu. Par conséquent, la même voix qui a produit le cri, c'est-à-dire la même voix qui produit la grande voix, laquelle est-à-dire la résurrection. Ainsi, s'il est-à-dire le même dans le premier âge, comme il doit l'être dans le dernier, et il a averti les gens pendant le premier âge, de fuir, quand ils avaient vu l'abomination, qui rendait la désolation, venir sur la scène, et ils ont prêté attention et ont quitté la ville. Ainsi, qu'en est-il en cette heure, quand Dieu est descendu et a montré un prophète confirmé, les jugements qui vont frapper, quand Dieu dit qu'il va faire couler la Californie, avant la venue du Seigneur. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur, par une vision venant de Dieu, et cela arrivera juste de cette manière. Et cela arrivera avant la venue du Seigneur. Je disais ceci avant et je l'ai dit au ministre de l'Amérique du Sud dans notre réunion de samedi matin. Jeremy peut pas comprendre comment une personne prétendrait croire le message et continuerait à vivre en Californie. Quand frère Mark Hughes était pasteur en Californie et a entendu frère Branham prononcer le jugement sur cela, en un mois, il s'est déplacé pour Tucson et la majorité de son église fit de même. Pourquoi? Parce qu'il croyait un prophète confirmé. Et Dieu lui a donné la vision de la Californie, sombrant et des rats des marais de 1 miles de profondeur, balayés dans le dessert. Et j'ai dit, vous frères, vivant à Lima, au Pérou, qui estère au même niveau que la Californie, vous ferez mieux d'avoir un plan d'évacuation vers un lieu plus solide. À l'instant où vous écouterez qu'il y a un tremblement de terre en Californie, parce que ce raz-de-marée balayera Lima et Santiago au Chili, et toutes les villes côtières. Les scientifiques disent que cela tuera 85% de la population sur la Terre, parce que cela balayera les intérieurs de 100 à 200 miles autour du monde. Et il a dit que cela arrivera avant la venue du Seigneur. Waouh! Mais est-ce ce que les gens prêtent, il attention à l'ainsi dit le Seigneur. L'Église primitive l'a fait et ils étaient sauvés. Sœur Betty Collins voyageait avec frère Branham, avec sa fille Becky, après qu'il ait prêché sur l'enlèvement à Yuma en Arizona. Et comme ils traversaient le désert, sur leur chemin de retour à Tucson, il lui a pointé du doigt, et a dit, il y aura des requins qui nageront ici, un jour. Frère Ricasson a témoigné que frère Branham lui avait dit et à plusieurs autres frères à Tucson que, l'eau viendra d'aplomb au chapeau de moyeu à Tucson. Et Sester est demi-mile au-dessus du niveau des océans. Je n'ai mis peut pas comprendre comment quelqu'un voudrait vivre là-bas. Et qu'en est-ce île de Phoenix? Sester juste à 1000 pieds au-dessus du niveau de l'océan et si vous regardez sur la carte au-dessus, vous verrez ce que les scientifiques croient, que les États-Unis deviendront après que cela n'arrive. Et si Tucson est à 1,380 pieds de Phoenix, alors Phoenix sera au moins autant sous l'eau. Il a dit que le raz des marées va atteindre le fleuve Ohio. Les scientifiques prédisent que cela fera monter le niveau du Mississippi de 300 miles de largeur au golfe et cela va s'étendre jusqu'à rejoindre le lac Michigan et Chicago. Cette cité méchante sombrera au fond de la mer. Ils disent que cela montera au niveau du fleuve Ohio et sera à 50 pieds au-dessus du niveau d'eau actuel. Si l'inondation de 1937 était de 22 pieds au-dessus de la rue Spring, et il avait alors conduit son canot au-dessus du tabernacle, qu'en sera-t-il à 50 pieds? Mais frère Branham a dit à frère Vell, que l'Ohio sera l'un des endroits les plus sûrs. Mais l'endroit, le plus sûr, c'est Esther en Christ, mais vous devez croire quand il dit d'être en lui, car il est Esther la parole. Le chef-d'œuvre 5 juillet 1964 p. 99. L'alpha et l'oméga, c'est Esther le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Oui. Oui. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est Esther le même. Le premier message et le deuxième. Dernier message, c'est Esther la même chose. Je suis. J'étais dans l'alpha. Je suis dans l'oméga. Il y aura un jour qui n'est mis, sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir la lumière paraîtra. Voyez? L'alpha et l'oméga. On y Esther maintenant. Le premier et le dernier. Oh. Là là. Frère. On pourrait passer des heures là-dessus. Les sept âges de l'Église 12 mai 1954 voici. Il vient avec les nuées. 92 maintenant. Laissez-moi m'arrêter si juste un instant. Les nuées. Cela ne veut pas dire qu'il vient sur un grand cumulonimbus, un grand nuage tiré une pointe dépointée. 93 Esther comme maman, que son cœur soit béni. Elle Esther assise quelque part ici. Quand j'étais un petit garçon, elle avait l'habitude de me faire asseoir et de me parler, disant, il viendra sur d'énormes nuages, et un jour, il y aura la résurrection, et Dieu va venir. 94 Et alors, les nuées sur lesquelles il viendra. Si seulement nous avions le temps de voir tout cela, d'examiner le véritable arrière-plan de toute la chose. Eh bien, la nuée sur laquelle il viendra, ce n'estère pas un nuage comme un cumulonimbus, mais s'estère sur une nuée de gloire qu'il viendra. Voyez-vous? Voyez-vous? 95 Eh bien, quand Jésus a été couvert d'une nuée par Dieu sur le mont de la Transfiguration, et lui et ses vêtements étaient couverts d'une nuée. Voyez-vous? 96 Et quand Eliezer est arrivé là, une nuée Esther descendue et l'a enlevée. Non pas une colonne de feu. Non pas. Je veux dire. Non pas un cumulonimbus. Mais une nuée de gloire. 97 Sa grande et glorieuse présence frappera la terre. Il viendra sur des nuées. Oh! J'aime ça. Les nuées. Il y aura vague après vague de sa gloire qui parcourra la terre. Et les saints ressusciteront. Quand cet adorable Saint-Esprit, qui a vécu dans leur cœur, et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, avec des traces de larmes sur leurs joues et tout, comme cela, et ils sont placés là, dans un cimetière, et une grande vague de ce même esprit, et vosses, vague après vague. 98 Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. Comment cela pourra-t-il se faire ainsi? C'est-elle l'ordre de la résurrection. Je ne m'y reconnaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l'une après l'autre, exactement comme elle était allée. Les derniers seront les premiers. Assurément. Absolument. Voyez-vous? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant. Mon papa reconnaîtra les siens. Son grand-père reconnaîtra les siens. Ainsi de suite. Comme cela. 99 Vague après vague. Après vague. Après vague. Et les saints ressusciteront de partout. Néhémie, sera-ce pas merveilleux? L'assemblée dit, Amen. -de. Amen. Cela rendra des vieux de nouveaux jeunes. Oui. Maintenant, remarquez bien. Très bien. Viendra sur les nuées, et chaque œil le verra. Peu importe combien loin dans le passé Esther le moment où ils sont morts, ils le verront quand même. Écoutez sa voix 5 octobre 1958 p. 13. Et quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps-ci, mais il s'agit d'un type de corps différent. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Vous, Néhémie, pouvez pas leur serrer la main. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez les regarder. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient ici. En effet, quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie sur la montagne de Transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c'était un corps. Mais alors, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend là la matière dans laquelle il vivait. Et alors, il devient un corps glorifié. Et ce corps restait celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus, dans son corps ressuscité. Maintenant, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand ils reviennent lors de la seconde résurrection, ils n'obtiendront pas un corps glorifié. Ils viendront avec un corps de résurrection, comme Lazare, qui est mort, après qu'il soit ressuscité des morts. Car Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, la question a été posée à l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 35-54. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes, Néhémie, reprend point vie. Si Néhémie meurt, Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile différente d'éclat d'une autre étoile. Ainsi on est stérile de la résurrection des morts. Le corps est semé-corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé-méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé-infirme, il ressuscite plein de force, il est semé-corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang émis peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous n'émis mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Maintenant, je peux me tromper quant à ceci, mais quand Dieu montra à frère Branham la vision de la tente, il vit des gens en ligne, très infirmes, et manquant des membres du corps, etc. Mais quand ils entraient dans cette petite pièce, ils étaient complètement guéris. Est-il possible aux saints de revenir, comme ils sont partis, avec le même corps, avec lequel ils sont partis, et quand ils sont ressuscités, viennent-ils avec un corps de résurrection, et quelle attente, ils reçoivent leur corps glorifié? Je n'ai mis ses pas. Paul semble faire allusion à ce corps qui se met, meurt, dans la corruption, mais quand il est ressuscité, il est incorruptible. Ainsi, les seuls peut-être à avoir une chance d'obtenir un changement, c'est pour ceux qui sont vivants, au temps de la résurrection. Jéhovah Jireh, 24 février 1956 p. 50. Quand nous aurons dressé notre grande tente quelque part ici, nous aurons beaucoup de temps pour examiner ces choses entre les lignes. Voir la résurrection, comment elle évolue là, c'est bien beau. Tombez simplement amoureux de lui et il vous révélera cela. Et puis, j'ai remarqué que, vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sarah là? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Espace vide sur la bande-n.d.e. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Oh! Direz-vous, Frère Branham, c'était ridicule. Mais il l'a fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Il a fait. Laissez échapper la pression 18 mai 1962 p. 112. Je souhaiterais venir ici pour environ 1 à 2 ou 3 semaines, juste pour l'enseignement biblique de la prophétie et des choses. Voyez, là où nous vivons, amis. Qu'est-ce ce qui Néhémie va pas avec les gens? Néhémie, pouvez-vous pas voir que nous sommes au temps de la fin? C'est terminé. La chose suivante sera un balayage qui ce petit groupe ensemble. En un mois ou plus, elle s'en ira, aussitôt qu'elle sera rassemblée. Bien, nous sommes à la fin. Il n'y a d'espoir resté nulle part. Courez pour Christ. Ainsi, il y a une atmosphère sur laquelle nous devons être fixés, pour que nous soyons introduits directement dans le ministère de la résurrection de la voix de Dieu. Dans sa prédication, intitulée « Le signe 1er septembre 1963 », page 49-5, Frère Branham dit « Appliquez cela. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l'emprise sur eux. Voyez-vous? Oh! Vous êtes vous êtes. Si vous avez le signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C'est ça. Appliquez le signe, il marche dedans. Vous devrez le faire maintenant. Ceci est le temps de soir. Jean 1, 3-7. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres Néhémie l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Remarquez, Jésus nous montre d'où provient notre vie, la lumière, l'illumination sur la parole. Il dit, Esther la vie. Mais ceux qui sont dans les ténèbres Néhémie peuvent pas comprendre la lumière. Maintenant, dans Jean 3, Jésus nous dit, pourquoi les ténèbres Néhémie peuvent pas venir à la lumière? Parce que la lumière, la parole de Dieu, expose le péché. Et si elle expose le péché, elle expose aussi la source du genre de vie qu'il possède. Laquelle vie n'est-elle pas de Dieu? Ainsi, vous voyez ici, un partage juste de la vie, provenant de la vie Dieu, à la vie naturelle. L'une est donnée par Dieu, pendant que l'autre provient du Père biologique. Jean 3, 16-24. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait mis périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à, ou dans une plus grande mesure à, la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal à qui est, déteste, persécute la lumière, et Néhémie vient point à la lumière, de peur que ses œuvres Néhémie soient dévoilées et réprimandées. N'oubliez jamais que la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur, et ainsi, reprouve, réprimande avec patience. En fait, l'apôtre Paul nous dit que c'est la parole que nous déclarons, qui reprouve et réprimande. 2 Timothée 4, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Mais Jean nous a dit que le pécheur Néhémie ne viendra pas à la lumière, parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise là où il a tort. Il est difficile pour lui de supporter la correction. Dans Proverbes 9, 8, Salomon nous a dit, Néhémie reprend pas le moqueur, de crainte qu'il Néhémie te haïsse, reprend le sage, et il t'aimera. Ainsi, la parole contient en elle une atmosphère de correction et de répression, et le sage en veut autant que possible, et le pécheur en désire moins que possible. Raison pour laquelle il n'aime pas la lumière. Si vous voulez éprouver le caractère d'une personne, donnez-lui juste le test de la parole, et voyez comment il reçoit la correction par la parole. Il aura une réponse biblique, sans doute. L'un pour honorer et un autre pour déshonorer. Mais Jean nous dit, mais celui qui agit selon la vérité, non pas celui qui dit qu'il croit la vérité, mais plutôt celui qui pratique la vérité. C'est-à-dire celui qui implémente la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Ce mot est phanero, qui signifie manifester dans son véritable caractère, parce qu'elles, ce qu'il manifeste, sont faites en engagant ou avec Dieu. Maintenant, voyons ce qui se passe quand la lumière vient vers une semence de Dieu, quoique cette semence vivait dans le péché. Nous prenons l'histoire dans Jean 4, 7-21, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je n'aie mis vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce Néhémie sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous Néhémie connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessous arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun n'aimait dit, « Que demandes-tu ? » Ou, « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Néhémie serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Remarquez que dans Jean 3, il nous dit que ceux qui ont leur origine en Dieu, répondront à la lumière et viendront à la lumière, mais ceux dont les œuvres sont mauvaises, fuiront la lumière. Juste après ceci, il nous donne l'exemple de la femme au puits, et elle vivait dans le péché. Pourtant quand la parole de Dieu l'a frappée et a exposé ses péchés, elle n'aimait la pas rejetée, mais a plutôt reconnu la lumière, comme étant de Dieu et en fait, elle connaissait que le Messie, quand il était venu, c'était pour montrer le signe du Messie. Ainsi, que fit, elle? Elle s'est rendue à la cité et dit à toute personne qu'elle rencontrait ce que Dieu fit en révélant ses péchés. Ce n'est sont pas les œuvres des ténèbres, ce sont les actions d'une personne qui venait de recevoir la correction de la parole et voulait que tout le monde le sache. Ainsi, la parole, la lumière crée une atmosphère de la vie Dieu autour d'elle et que ceux qui veulent mourir en eux-mêmes courent vers elle et soient en sécurité. Dans sa prédication, « Allez, réveillez Jésus » 17 janvier 1963. Frère Branham dit, « Et nous créons notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais ça se tait à peine si vous pouvez rester en leur compagnie. D'autre part, vous avez été avec d'autres personnes dont vous appréciez la compagnie. C'est à vous qui créez cette atmosphère. Et, oh, n'auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant? C'est merveilleux. Voir l'atmosphère qu'il créait, je m'imagine que c'était un très grand faisceau de rayons d'amour, de respect, de crainte divine. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.